RFI et TV5 Monde vous présentent Afrique Presse.
Hassan Diop.
Bienvenue à tous, Afrique Presse, l'actualité en débat sur RFI et TV5 Monde. C'est avec Ousmane Ndiaye, TV5 Monde, Marie-Roger Biloa, Afrique Internationale, et puis Sébastien Hervieux, courrier international et ancien correspondant du journal Le Monde en Afrique du Sud. Merci d'être parmi nous pour la première fois. Et c'est autour de deux sujets cette semaine. L'Afrique du Sud, justement, la sortie par la petite porte de Jacob Zuma, le président sud-africain, l'ex-président sud-africain, discrédité par les affaires et remplacé aussitôt par Cyril Ramaphosa, le nouveau chef de l'ANC. Et puis en Guinée-Conakry, les premières élections locales depuis 10 ans, ternies par des manifestations et des violences post-scrutin. D'abord, l'ex-président sud-africain Jacob Zuma contraint donc à la démission par l'ANC, le parti au pouvoir. Trop de casseroles ont fini par le faire chuter avant le terme de son mandat. Cyril Ramaphosa, perçu comme le vrai dauphin de Nelson Mandela, prend donc sa place après avoir pris le contrôle de l'ANC en décembre dernier. Ousmane Ndiaye, au fond, on lui inflige exactement le traitement qu'il avait infligé à Thabo Mbeki, mais pas pour les mêmes raisons. Et à l'heure du départ, on a l'impression qu'il a mis un coup de pelle sérieux sur l'héritage Mandela.
En tout cas, il l'a bien escamoté, hein. Il n'en reste que très peu de choses. Je pense que sous Zuma, on a enterré un certain rêve. Zuma ne faisait plus rêver personne. Au contraire, on se réveille en se disant quel va être le dernier scandale. Après, là, qu'est-ce qui reste de l'héritage Mandela? Je pense qu'il y a une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, c'est pas la chute de Zuma. Pour moi, la bonne nouvelle, c'est que la démocratie sud-africaine, dont Mandela le père, marche. Il marche très bien. On s'est beaucoup concentré sur l'ANC qui pousse Zuma à la porte, mais l'ANC le pousse parce que les contre-pouvoirs en Afrique du Sud marchent. Il ne faut jamais oublier le rôle de la médiatrice d'État, je ne sais pas comment on l'appelle, c'est une sorte de procureur anticorruption. L'affaire de Kandla, c'est lui, c'est elle. Le Gupta Gate, l'État capturé, ce fameux rapport qui a lancé l'affaire Gupta, c'est elle. Donc je pense que les mécanismes, les contre-pouvoirs fonctionnent. C'est parce que les contre-pouvoirs fonctionnent que l'ANC est obligée. Je ne pense pas que l'ANC seule aurait fait cette mue.
L'évidence, c'est que Jacob Zuma, Sébastien, a plus gouverné pour ses intérêts que pour le peuple sud-africain. C'est flagrant.
Oui, c'est flagrant, mais il faut bien se rappeler du contexte en 2007 quand il bat Thabo Mbeki dans cette fameuse conférence de l'ANC. Il y a une fatigue de Thabo Mbeki à ce moment-là et Jacob Zuma rassemble les syndicalistes, les communistes, les jeunes et il est présenté à l'époque comme homme du peuple et c'est comme ça qu'il arrive. Et il y a un immense espoir de grande majorité de Sud-Africains qui disent enfin on va avoir des politiques économiques moins libérales, enfin il va penser à nous. Et quand on fait le bilan aujourd'hui, on peut presque dire que c'est une décennie perdue pour l'Afrique Absolument. Du Sud. Décennie d'immobilisme. La pauvreté, ça a été limité, mais on a un accroissement des inégalités. On a un jeune sur deux qui est au chômage aujourd'hui. C'est vraiment une décennie perdue. Il s'est rien passé. On parlait de la démocratie, c'est peut-être l'un des seuls héritages de Jacob Zuma. Eh bien, c'est qu'il a réveillé l'opposition. Et on a entendu pourquoi l'ANC, d'une certaine manière, a mis dehors Jacob Zuma. C'est que pour la première fois, on a entendu des discours au sein de l'ANC en disant on pourrait perdre les élections l'année prochaine. Exactement. Jamais on n'avait entendu parler
c'est
de ça.
Chose.
Et c'est le bel héritage.
Zuma a divisé et fracassé l'ANC également.
Oui, mais moi je me méfie Ousmane. De la lessiveuse, de cette tactique politique de l'ANC qui est d'exfiltrer Zuma et de nous faire oublier que l'ANC est responsable. Je pense que l'ANC est totalement responsable du bilan de Zuma. Pendant longtemps, l'ANC aurait pu faire sortir Zuma. L'ANC ne le sort que pour des raisons politique immédiate. C'est-à-dire, je pense pas que l'ANC sort Zuma pour le grand intérêt sauvegarder le peuple sud-africain. Ouais. C'est-à-dire, on le sort pour des raisons politiciennes, pas pour des raisons de l'ANC à un projet de mue totale. Moi, je le vois pas. Ouais. Ramaphosa, faisons attention. C'est-à-dire, à l'époque, vous rappeliez cette alliance avec les syndicats. À l'époque, je crois que c'est Ramaphosa était de l'autre côté. Enfin,
il rassemble toutes les ambiguïtés.
Je ne crois pas qu'il n'est pas l'homme neuf. Pas l'homme neuf, c'est quelqu'un qui est issu de la matrice de l'ANC. Et puis bon, il a quand même lui aussi des casseroles, Maricana.
Ça va être quel Cyril Ramaphosa? Est-ce que c'est celui de 87 qui a monté la COSATU qui a fait bousculer l'apartheid?
Le bras de fer avec les compagnies minières.
Exactement. Ouais. Est-ce que c'est le millionnaire qui a fait fortune après grâce à son statut d'homme noir à l'époque? Est-ce que c'est celui de Maricana
lorsqu'on a tiré sur les mineurs?
où les polices tirent contre ces mineurs grévistes, et lui appelle dans les emails en disant il faut intervenir contre ces grévistes parce que lui est directeur de cette compagnie minière de platine. Forcément, il va rassurer les investisseurs, mais quel est le projet politique de l'ANC? Et effectivement, vous le disiez, est-ce que seulement Jacob Zuma va être jugé? Est-ce que tous ceux qui l'ont aidé à piller les ressources publiques de l'État vont être jugés? Et dans ce cas-là, il y aurait beaucoup de monde qui pourrait aller devant
voilà.
un tribunal.
Sébastien, peut-être tous du doigt le fait que l'influence de Jacob Zuma ait duré aussi longtemps au niveau de l'ANC. On dit qu'il était parvenu à se rallier des barons du parti au pouvoir et qui était en quelque sorte aussi sur la scène politique sud-africaine. C'était aussi un peu le parti État, parti révolutionnaire. Donc la remise en question finalement d'un certain nombre de choses n'était pas évidente, y compris sur Jacob Zuma.
Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que jusqu'au bout, se croyant à la tête d'une coalition puissante et d'abord qui remonte à l'ANC, à une longue histoire, et moi je suis au-dessus de tout ça, il n'a pas réalisé que sa base s'était érodée et que sa capacité de négociation se réduisait comme peau de chagrin. Et là, c'est ce que je retiens un petit peu de cet épisode, c'est Zuma, l'homme qui a réussi à défier un peu, certaines règles et qui s'est maintenu au pouvoir un certain temps, qui a loupé sa sortie. Au moment, ça faisait des mois qu'on négociait avec lui, qu'on lui disait, voilà, c'est mieux que tu partes, etc. Il aurait pu obtenir beaucoup plus de choses. Là, il n'aura pas d'immunité. On n'est pas sûr que ses frais judiciaires soient pris en charge. On ne sait pas ce qu'il y a, etc. Mais, disons, il s'est fragilisé davantage au lieu de partir au moment où il avait une certaine position de force.
Voilà. Ousmane Diaye, il faut constater qu'aujourd'hui, il y a des changements comme ça. En Angola, on a changé de président. Donc, en Afrique du Sud, c'est le cas. Bob Mugabe a été éjecté de son fauteuil présidentiel, même si on lui a gardé tous les honneurs et les respects dus à un héros de la lutte d'indépendance. Est-ce que ça augure de quelque chose
En tout cas, il y a une mutation qui est très importante dans les exemples que vous citez. C'est-à-dire, on n'arrive pas à des alternances démocratiques dans le sens où un autre parti politique, un autre projet succède à un autre projet, mais c'est les querelles internes au sein des pouvoirs qui donnent des sortes d'alternances assez hybrides, assez bizarres. Et je ne trouve pas que ça soit rassurant, parce que je pense que ça dénote d'un certain verrouillage, d'une certaine élite politique qui est tellement verrouillée que les possibilités je pense que c'est une sorte d'instinct de survie. Ils se disent que si on ne liquide pas celui qui a la tête qu'il symbolise, parce que la pression populaire est tellement forte, donc on sacrifie la tête et on garde le système. J'ai peur que ça soit pas des réformes en profondeur, ça soit surtout des réformes immédiates pour juste calmer.
Oui, mais c'est pas forcément le cas de l'Afrique du Sud, parce que quand même, l'opposition a remporté plusieurs municipalités lors des dernières municipales. 2016, ouais. C'est-à-dire que la présidence de Zuma a aussi a été une sorte de tremplin aussi pour l'opposition.
Sans Jacob Zuma. Jacob Zuma était le meilleur ennemi de l'opposition sud-africaine. Et aujourd'hui, ils vont se poser des questions sur leur stratégie. Après, au pire de son moment, l'ANC en 2016 était à 53%. Donc ils ont encore de la marge. Le premier parti d'opposition était à 27% en 2016. La question qui se pose en Angola, au Zimbabwe, en Afrique du Sud, c'est la question des mouvements nationaux, de libération nationale, qui sont transformés en partis État, qui restent dominants. Mais aujourd'hui, on a quand même changé de génération. Quand on est en Afrique du Sud, quand on parle à quelqu'un de 20 ans, 22 ans, il dit « Oui, mon grand-père était noir, il a été libéré par l'ANC, il est plus sous le joug des Blancs, mais aujourd'hui, moi, j'en ai un peu rien à faire. La question, c'est est-ce que j'ai un travail ?» Et j'ai pas de travail. Et ça pousse quand même. Ça
donc
pousse
cette mutation générationnelle était une évidence, Marie-Roger.
Oui, certes. Et moi, je voudrais dire quelque chose d'assez positif sur Cyril Ramaphosa. Cyril Ramaphosa. Parce qu'effectivement, c'est un homme à plusieurs visages. Mais je crois que c'est un atout formidable que cet homme viennent à la fois du militantisme politique, toute cette tradition, mais aussi qui a été trempé dans le monde des affaires, et même, je dirais, à la dure, et qui est connu des crises. Et je crois que l'Afrique du Sud, aujourd'hui, a besoin d'un renouveau économique. Je crois que c'est ça qu'on attend.
Un peu plus de justice sociale.
Voilà.
Cyril Ramaphosa aura quand même, Ousmane Diaye, fort à faire. Non seulement il va falloir restaurer le crédit de l'ANC, donc du parti, mais également gagner les élections générales de 2019. Donc deux fers au feu, au fond, deux objectifs qui se rejoignent cependant.
N'oublions pas, je parle sous le contrôle de Sébastien, le courant Zuma au sein de l'ANC, il ne va pas disparaître du jour au lendemain. Il est obligé de faire avec celle qui la porte et qui est arrivée second aux dernières élections internes, Lamani Zuma. Il est même question qu'elle soit vice-présidente. Donc je pense que là, il va devoir porter l'héritage politique Zuma au sein de l'ANC qui va, à mon avis, pas aller en retraite politique.
Après, tout le monde va avoir son intérêt, puisque... Pourquoi l'ANC a lâché Jacob Zuma? C'est qu'ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient perdre les élections, qu'ils y perdent les élections, qu'ils perdent les postes, l'accès aux ressources. Et ils voient bien que Cyril Ramaphosa est leur meilleur atout aujourd'hui pour garder le pouvoir et conserver les postes.
Un tout dernier mot à Marie-Roger.
Je crois qu'on n'a pas fini d'entendre parler de Zuma, parce que lorsqu'il partait après sa déclaration, il a dit... On se reverra
devant la justice, devant les tribunaux. Voilà. RFI TV 5 Monde, Afrique Presse, et l'on passe à notre deuxième sujet. À propos de ces troubles post-électoraux, Ousmane Diaye, après les premières élections locales depuis 10 ans en Guinée-Conakry, au moins une dizaine de morts liées aux récentes manifestations pour contester donc les tout premiers résultats provisoires de ces élections. Alors, aux yeux de Sélou d'Alain Diallo, les tués sont des martyrs. Du côté du pouvoir, le RPG d'Alpha Condé, on dénonce une instrumentalisation des manifestants, et puis surtout on les incite à la violence pour mieux culpabiliser finalement le pouvoir et les services de sécurité et les services d'ordre.
Je pense que rappeler le contexte est important. La démocratie guinéenne est jeune. Moi, je la suturais à sa naissance. Moi, je serai 2010 avec l'arrivée d'Alpha Condé sur des élections quand même qui repose sur un contentieux électoral qui se poursuit. C'est-à-dire, je pense que la Guinée n'arrive pas à dépasser la question purement électorale. Ouais. C'est-à-dire, Alpha Condé arrive, ne l'oublions jamais, avec une élection qui est quand même très bizarre, qu'on en dise, 5 mois entre les deux tours, avec un renversement des tendances qui est assez spectaculaire. Alors, il emporte une responsabilité dans le contentieux électoral qui est en train de se nouer. Moi, j'arrive toujours pas à comprendre qu'on reste très ans sans...
Est-ce qu'il n'y a pas d'autres moyens de contester les élections que la rue à chaque fois, avec des morts.
La force doit rester aux urnes. Mais le problème aussi, c'est que...
Et puis surtout, les instances d'arbitrage.
Oui, les instances d'arbitrage. Mais la question, c'est la fiabilité de ces instances et la confiance, le pacte que les politiques ont en termes de fiabilité par rapport à ces instances. C'est-à-dire, quand on met 13 ans à organiser les élections locales et qu'on part sur ces bases-là, on est dans un contexte de défiance. C'est-à-dire, avant même les élections, l'opposition criait à la fraude.
Oui, alors...
Voilà, mais est-ce que ça justifie à chaque fois une réponse par la rue et à chaque fois la mort d'innocents, en quelque sorte, Marie-Roger?
Mais voilà, c'est exactement ça le problème. Je suis d'accord avec Ousmane qu'on est, surtout l'opposition, toujours dans son contentieux électoral initial. Ça, c'est sûr. Et
on n'en sort pas.
Aujourd'hui, on est quand même frappé qu'on a un président en exercice qui a quand même un certain bilan. Là, je reviens de Bruxelles aux ACP. Je tombe, il y avait une réunion sur le secteur minier. Et c'est là qu'on voit que sous Alpha Condé, on a fait une réforme du secteur qui est cité en exemple, que c'est la première fois qu'on a les contrats qui sont publiés en ligne, que voilà, on voit tout ce qui s'est passé. L'armée, maintenant, est retournée dans les casernes. Et ça, je peux vous dire que quand on parlait aux Guinéens à l'époque, on disait, oulala, dans les taxis, on est avec des militaires en armes, etc. Ça, c'est réglé, ce genre de problème. Je suis tout à fait d'accord que l'opposition veut le pouvoir. Et dans la contestation permanente, le terme d'instrumentalisation, on est obligé d'y penser, parce que chaque fois qu'il y a il y a l'occasion, tout de suite il y a des morts, etc. Enfin, on se dit il faut qu'il se calme un peu.
La contestation venait, ou le ralentissement venait des deux côtés, c'est-à-dire d'un côté il y a l'opposition qui contestait la constitution de la Commission nationale électorale, ensuite c'était des mésententes sur le budget, enfin bref, je veux dire, les torts c'était, semble-t-il, des deux côtés.
Les torts semblent partagés, mais est-ce qu'on a réussi à créer un environnement de confiance pour dire tout ça va bien se passer, puisqu'on dit non. Si on dit avant les élections que l'opposition crie déjà la fraude, ça veut dire que ils se disent quand même qu'il y a peut-être un petit souci et ils ont des raisons de s'inquiéter.
Je trouve le tableau de Marie-Roger un peu petit idyllique.
Mais non,
juste avant les élections. Oui, mais je précise. Oui, mais je précise que juste avant les élections, par exemple sur la question de l'électricité que vous citiez, il y a eu des émeutes à cause des coupures d'électricité.
Je ne dis pas que c'est parfait, mais quand même
faut relativiser. Oui. Mais par contre, moi je pense qu'il faut avoir le courage quand même de se poser une question dans ces jeunes démocraties africaines. Est-ce qu'il faut organiser coûte que coûte les élections?
Merci.
J'ai l'impression que on l'organise coûte que coûte, faut y aller, c'est une question d'agenda. Ouais. Et à la fois, encore une fois, c'est la même chose qui se pose en République démocratique du Congo. Ceux qui sont élus portent la responsabilité d'organiser des élections. Et là, la principale responsabilité d'Alpha Condé, président en exercice, c'est de ne pas, pendant quand même deux mandats, ne pas pu avoir organisé les élections locales, de ne pas pu avoir trouvé un juste.
Mais avec des torts partagés.
C'était sa responsabilité d'organiser le consensus politique. Parce que c'est lui qui est au pouvoir.
Alors justement, la question est de savoir, est-ce que parce qu'on est au pouvoir, on détient toutes les solutions, on a les clés des solutions en main. Est-ce qu'on est seul?
Eh bien non, justement. L'opposition doit être constructive. Et on se pose la question.
C'est lui qui a la responsabilité.
La commission électorale est censée justement être une instance représentative aussi bien du pouvoir que de l'opposition. Apparemment, aujourd'hui, les critiques ne portent pas sur la commission électorale, mais sur les résultats en tant que tels.
Voilà. Alors, Marie-Auger. Je lisais un petit peu la presse guinéenne et on se rend compte que les problèmes sont dans les deux camps. Les problèmes de fraude sont relevés dans les deux camps. Donc, il y a un problème. Je suis assez d'accord. On regarde ça, on se dit, est-ce qu'il faut absolument organiser des élections quand on n'est pas sûr que tout ça va pas bien se passer? Et aussi, on comprend les hésitations du pouvoir. Ça fait 10 ans qu'on attend, et que c'est une élection qu'on a reportée.
Alors, Ousmane, on ne peut pas se passer d'élection parce que c'est le seul moyen de prendre le baromètre politique d'un pays dans sa pluralité. Donc, ne rêvons pas. En tout cas, pour l'instant, c'est peut-être pas un instrument parfait, mais c'est un instrument le moins imparfait. Oui. Cependant, on peut quand même, en revanche, éviter des manifestations, des appels à manifester, puisqu'il existe des instances pour contester les résultats. On l'a vu au Kenya. Tout le monde était surpris que la Cour suprême kényane ait retoqué des élections, même si après le scénario a changé, mais voilà. Pourquoi ne pas faire appel aux instances d'arbitrage?
Pourquoi? Parce que ces instances comme la CENI ont été déjà même, au moment de leur mise en place, contestées par l'opposition.
C'est pluraliste. Non, pas cette commission électorale. Tous les partis sont représentés.
À un moment donné, ils sont représentés. Mais quand même, à un moment donné, sur la question la question du fichier électoral, il y a eu une contestation.
D'accord.
C'est-à-dire, avant même l'élection, se nouent les imbroglios pense que, et puis ça pose aussi une autre question. C'est-à-dire, les commissions électorales nationales indépendantes en Afrique ont souvent d'indépendants que de nous, en fait.
Est-ce que la classe politique... Alors, autre question, et dernière, est-ce que la classe politique guinéenne serait-elle inconciliable? On ne peut pas les réconcilier, Ousmane, d'abord, rapidement.
Il y a une chose, quand même, rapidement, qu'il faut préciser. Il y a une culture de la violence politique qui existe depuis presque 60 ans dans ce pays. Et ça, on ne peut pas en faire fi. Pour faire comme si ça n'existait pas.
Marie-Auger.
Je crois que dans les deux camps, on peut appeler tout le monde à la retenue. Et que il ne faut plus utiliser les citoyens et les militants comme de la chair à canon pour des revendications politiques ou pour gêner le pouvoir.
Oisifs, semble-t-il.
Exactement. Et que ça, c'est une irresponsabilité aussi qu'on peut imputer à l'opposition. Et c'est sûr que lorsqu'on est au pouvoir, on a plus de responsabilités, mais en même temps, on ne peut pas diriger un pays avec une opposition qui cherche à toutes les... J'avais regardé une liste de tous les conflits qu'il y a eu, où il y a des morts, où on pousse les gens dans la rue, etc., en se disant ça va ternir le pouvoir. C'est une stratégie acceptable.
Voilà. Sébastien.
Oui, c'est voir les signaux envoyés par le reste du continent aussi. Voilà, on voit ce qui s'est passé au Libéria avec l'élection de George Weah, une démocratie relativement jeune aussi.
Apaisée, oui.
Et peut-être que ça portera ses fruits.
C'est bien notre espoir.
Un dernier mot.
La rue est la conséquence des institutions qui ne marchent pas. C'est une conséquence, c'est pas une cause.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Oui,
merci.
Pas sûr, dit Marie-Roger. Merci Marie-Roger Biloa, Sébastien Hervieux, ainsi que qu'à vous, Ousmane Diaye, de même qu'aux équipes techniques et rédactionnelles d'Afrique Presse. Bien entendu, cette émission est à retrouver sur les sites internet de RFI et de TV5 Monde. Grand merci de votre fidélité à Afrique Presse et puis bien sûr à la semaine prochaine.